appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mboujima au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix qui vous accorde la parole. Plus d'une année après leurs installations, des nouvelles provinces fonctionnent tant mieux que mal, selon certains observateurs. Mais qu'en est-il du fonctionnement donc de la justice dans ces nouvelles entités provinciales? Nous en parlons aujourd'hui au cours de ce débat. Vous pouvez également participer à cet échange citoyen en composant les 081 890 63 80 ou encore au 081 890 49 69 pour votre intervention en direct. Nico Kalamba y est au standard, Jean-Noël Mokondo à la mise en onde, Martin Sebujangue supervise cette émission, coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Anji. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo. Cette émission en parole aux auditeurs est une rediffusion.
Nous avons en ligne Maître Rifin Louko, qui est expert également, qui fait des recherches autour de cette question de la décentralisation. Maître Rifin, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour J.R., bonjour à tous.
Alors Maître Rifin, vous avez eu à sillonner, en tout cas à travers le pays. Quel est le constat que vous avez fait concrètement? Est-ce qu'aujourd'hui la question de la décentralisation a été résolue ou autrement dit, les provinces, les nouvelles d'ailleurs, fonctionnent-elles dans l'esprit et la lettre du législateur qui a évoqué, en tout cas dans sa motivation, dans la loi sur la libre administration des provinces, que les soucis c'était d'ailleurs de rapprocher le justicier du justiciable?
Bon, les auditeurs de Radio Okapi, les fidèles auditeurs, les aimables, les auditeurs de Radio Okapi se rappellent que nous avions, sur la question de la décentralisation, il y a Maître Soudi Alimassi, il y a Maître Gilbert Kantingé, qui nous tous avons alerté que non, l'histoire de notre pays depuis les années 1921, la Belgique qui était l'État qui nous colonisait à l'époque, chaque fois qu'il projetait une décentralisation, commençait d'abord par la projection budgétaire, donc le matelas, le sous-bassement de la décentralisation. Donc, le gouvernement belge, le parlement belge à Bruxelles adoptait d'abord un budget qui va soutenir, qui va subventionner la décentralisation. Donc, la décentralisation qui sous-tend le rapprochement du pouvoir central de la population, donc en ramenant le pouvoir des décisions du centre qui est la capitale vers les provinces, les entités administratives décentralisées. Cette décision-là, donc, implique premièrement des bâtiments qui vont abriter ces institutions-là en province. En dehors des bâtiments, un personnel nouveau qui sera payé, n'est-ce pas, soit par la province, soit par le gouvernement central. Ensuite, en dehors du personnel nouveau, les ressources humaines et surtout le mobilier, donc le frais de fonctionnement de chaque jour de ces institutions-là. Il faut y penser, vous ne pouvez pas décentraliser uniquement la lettre, par la lettre. Alors nous avions alerté sur Radio Okapi, on en parlait, les constats que nous avons maintenant, après un temps, bon, évidemment, nous ne serons pas sévères parce que tout simplement c'est pas déjà beaucoup d'états depuis qu'on a décentralisé jusqu'à maintenant, mais si on peut faire
Maître Rifin, si vous n'allez pas être trop sévère, mais je crois que vous allez parler avec des faits. Qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain, en ce qui concerne dans les secteurs de la justice notamment?
Alors, dans le secteur de la justice en particulier, la loi dit qu'auprès de chaque province, il doit y être installé une cour d'appel. Donc la province de l'Ituri doit avoir une cour d'appel, elle ne doit plus dépendre de Kisangani. La province de Bazouélé, la même chose. Donc la province de Lomami, la province ne doit plus dépendre de Lomashi. Lomashi est parmi l'une des provinces les plus vastes, donc disons l'ex-Katanga. Tout le découpage ou toute la décentralisation de cette province doit donner autant de cours d'appel. On a jusqu'aujourd'hui. Personne n'en parle, parce que la cour d'appel va exiger qu'il y ait des bâtiments. Vous vous rappelez que depuis qu'on a découpé à 88-89, la cour d'appel du Nord-Kivu est restée dans un réfectoire au bord du lac à Goma, dans le quartier Timens, dans un réfectoire, et personne n'a jamais pensé à doter cette province-là d'une bâtisse, n'est-ce pas, capable d'abriter une cour d'appel. Donc ça veut dire quoi? Nous décentralisons et nous n'avons pas les moyens. Toutes ces provinces-là se battent chaque jour pour la rétrocession. Qui les donne? Qui les libère? Aucun ministre des Finances, aucun ministre des Budget n'a libéré. Vous avez eu le conflit qu'il y a eu entre les provinces et le gouverneur Matata Ponyo et le gouverneur le premier ministre Mosito pour la libération de la rétrocession sans laquelle aucune province, n'est-ce pas, ne vit. Et aujourd'hui, maintenant, les provinces qui ont été ajoutées au ONU. Non, aucune rétrocession. Aucune. Comment fonctionne-t-elle maintenant là? On parle d'ici de détournement. Mais ces provinces-là, non, aucune subvention. Nous avions reproché ça à l'ancien ministre de l'Intérieur de se précipiter dans une décentralisation pendant qu'il était conscient qu'on n'avait pas les matelas financiers, l'argent pour soutenir cette décentralisation. Le constat, c'est que la justice, partout là-bas, fonctionne sans frais de fonctionnement et les cours d'appel ne sont pas là. Et donc nous sommes là dans un embroglio. Parce qu'il y a le contentieux électoral. Ça sera compliqué, parce que ces cours d'appel qui vont siéger pour des cas qui se sont passés à Ituri, ce sont des cours d'appel plus ou moins incompétentes, parce que la loi dit que non, dans chaque province, il doit y avoir une cour d'appel.
Alors, mais selon nos informations, il y a quand même des magistrats qui ont été nommés, désignés pour aller en région de leur poste de travail au niveau des provinces, mais jusque-là, il y a des résistances.
Oui, mais il y a des résistances parce que les gens sont envoyés comme des cordes à des cercueils pour aller être jetés quelque part. La plupart des fois, ils sont envoyés en province. Non, mais il faut qu'on parle de ces choses. Les magistrats sont envoyés en province, il n'y a pas de billets pour partir. Il doit laisser sa famille ici, non subventionnée. Là où il va, il n'a pas de logement. Toutes les maisons de l'État en province sont vendues. Dans la plupart des provinces, il n'a pas de logement. Il va arriver à un hôtel qui va payer l'hôtel pour lui. Et lorsqu'il est pris en charge par les directeurs provinciaux de certains services qui sont les plus corrompus des provinces, c'est que les juges qui vont rentrer là-bas, nous nous retrouvons dans un embrouillon. On doit parler de ces choses.
Alors,
interpeller le ministre de la Justice par rapport au fait que comment envoyer autour des magistrats en province, il ne faut pas. Et comment les magistrats qui ne vont pas ne doivent pas être sanctionnés? Lorsqu'ils ne vont pas, est-ce qu'ils ne peuvent pas acquitter? Pourquoi ils ne vont pas? Donc, il y a des magistrats qui, d'ailleurs, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on nomme des magistrats ici qui ne vont pas. Parce que tout simplement, on sait que non, cette province-là, cet endroit-là, il n'y a même pas d'école pour ses enfants, pour faire étudier ses enfants, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de dispensaire. Il va vivre comment là-bas? Donc, on considère que donc, le Congo utile, c'est quelques provinces. Les autres provinces, laissent désirer, les magistrats n'y vont pas, les fonctionnaires n'y vont pas. Il y a même des gens qui acceptent de mourir caporal ailleurs dans une autre province que d'aller mourir général dans sa propre province. C'est ça la réalité de la
justice. Alors, Maître Riffin, vous, en tant que chercheur, quel est le danger qui entoure, au fait, ce retard de déploiement de certaines instances dans les nouvelles provinces?
Mais c'est ce que vous appelez chaque jour à Radio Capi, l'absence de l'autorité de l'État. Ces tueries, ces massacres, ces assassinats, ces enlèvements, ces kidnappings et consorts. Et on a pillé les kits, n'est-ce pas, de l'enseignement supérieur pour les examens d'État par là. On a assassiné. C'est l'absence de l'autorité de l'État. Lorsque la justice n'est pas déployée, première conséquence, c'est la justice privée. La population qui n'a pas une justice devant elle va s'en donner à la justice privée, donc on va se contenter de ce qu'elle paie. L'absence de l'autorité de l'État. Ça, c'est un enjeu, c'est un défi pour la République et il faut qu'on l'affronte. Nous le crions chaque jour. Bon, hélas, comme toujours, on nous pressure dans le désert, personne ne nous écoute. Mais donc, l'absence de la justice, c'est à tous ces endroits-là, c'est la justice privée. Donc, c'est comme, et ça fait longtemps qu'il y a des endroits où on n'a jamais vu un magistrat, on n'a jamais vu un juge. Et c'est pourquoi nous avons dit qu'il faut réformer la justice, et pour qu'on revienne, vous vous rappelez, pour qu'on revienne dans la situation où les policiers avaient un pouvoir judiciaire, où les chefs coutumiers avaient un pouvoir judiciaire. Cette histoire de laisser la justice aux seuls juristes, c'est un scandale, c'est une catastrophe pour la République. La justice ne peut pas être laissée aux seuls juristes. Et c'est cette arrogance qui fait que ce sont les plus corrompus qui doivent parler au nom déjà, alors que la justice pouvait être rendue par les chefs coutumiers, pouvait être rendue par les policiers, pouvait être rendue par tout agent de l'État qui se trouve au fond de la République et qui a un pouvoir judiciaire. C'est une question de réforme. Ça veut dire de décentraliser la justice en donnant pouvoir aux chefs coutumiers de continuer comme à l'époque coloniale où les chefs coutumiers jugeaient les gens, où les policiers avaient le pouvoir judiciaire de juger certaines affaires. C'est important, on doit réformer la justice pour que là où les magistrats ne peuvent pas aller, qui est, par exemple, le monsieur Labbé, de l'endroit, ait un pouvoir judiciaire de trancher certaines contestations. On doit réformer, on doit redonner le pouvoir à la population, pas seulement les pouvoirs politiques, mais aussi les pouvoirs judiciaires, ça veut dire les prêtres, monsieur l'abbé, monsieur le pasteur, l'imam qui se trouve dans
Maître Riffin, certains redoutent que l'absence de la justice puisse donner la part belle à certaines autorités politico-administratives du terrain de se comporter comme des rois télé.
Hélas, et c'est le constat et la conséquence. Donc rien à faire. Lorsqu'il n'y a pas de justice, mon Dieu, vous voyez même des responsables locaux qui ont impunément violé, impunément arraché les biens d'autrui impunément, parce que là, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas un auditorat qui peut l'arrêter, il n'y a pas un parquet qui peut l'arrêter ou qui peut l'interpeller. La conséquence de l'absence de la justice sur toute l'étendue du territoire national en termes de présence des magistrats ou des inspecteurs.
Merci beaucoup, Riffet. Nous vous gardons encore en ligne.
La justice privée et la justice.
Voilà, nous vous gardons encore en ligne, Maître Riffin. On reviendra à vous plus d'une année après l'installation des nouvelles provinces. Fonctionne tant mieux que mal, selon certains observateurs, et vous venez débrosser le tableau. Alors, qu'en est-il de fonctionnement de la justice dans ces nouvelles entités provinciales? Nous en débattons aujourd'hui. Maître Sonville nous a rejoint, Franck Devienne, 081-890-63-80 ou encore 081-890-49-69 pour votre intervention directe.
Mwana kongo kento tombakala kisalo kusonikisa mazina mekoma na suka kwena swalu kukisonikisa na centre ya seni ina kile pemili ya inzo nange na komini nange mpena kukuma nange
inki mikanda ya kumonisa samu na kukisonikisa
mukanda ya kubitukila toki fanusu na yao ina mezabana na mbula matadi mukanda ina ke kusikimisa nde nge kile mwana inti kalati tompe mukanda mbula mafunda zoli na kumi na musi ina seni kupesa kange pasport ya Kongo ina mimanisa ntetuve mukanda ya mwana zonkanda ina kele ya mbote mukanda ya tsuka ya kisalu ya bana Kongo mume baka karte na munu samu na kupona ebu na nge.
Voilà, nous poursuivons avec vous, Maître Sonville, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, Monsieur Chier, bonjour à Maître Louko, bonjour à tous les millions d'auditeurs de la radio Okapi.
Quel est le constat que vous avez fait au niveau de Lubumbashi et est-ce que vous partagez l'avis de Maître Riffin qui parle des dangers à l'absence de la justice qui, au fait, amène l'absence de l'autorité de l'État? Alors, que faut-il faire pour résoudre définitivement ces problèmes?
Tout à fait, Maître Riffin a pleinement raison. Il y a absence de la justice. La justice est en panne dans toutes les provinces. Vous savez, la manière dont ont été nommés ces gouverneurs, c'est-à-dire qu'ils ont été imposés à la population, imposés aux assemblées provinciales. C'est pour cela, aujourd'hui, les députés se rendent compte que ces gouverneurs étaient imposés. Il y a des motions de défiance dans beaucoup de provinces en ce qui concerne les gouverneurs. Vous savez, pour le moment, monsieur J.R., ne vous pas nous leurrer, il n'y a pas de justice. Nous vivons la loi du plus fort, qui n'est autre que la meilleure. C'est-à-dire que les gouverneurs qui ont été nommés se comportent à roi télé. Pour ne pas parler de la province de Katanga, le gouverneur qui a été déçu par l'Assemblée provinciale, juste à son entame du travail, il a démis des fonctions, plus de 1000 fonctionnaires de la DDR4. Or, ça ne revenait pas dans ses prérogatives. Aujourd'hui matin, je suis passé par le gouverneur. J'ai vu les agents de DDR4 qui ont été démis de leur fonction par le gouverneur Kazembe, au niveau du gouverneur de Haut-Katanga, pour s'entretenir avec le nouveau gouverneur intérimaire par rapport à ces problèmes-là. Vous voyez que comment est-ce que fonctionne la justice? Du côté de la police, il y a eu la réforme de la police. Mais aujourd'hui, les inspecteurs judiciaires dépendent du parquet général. Aujourd'hui, les experts du chef sont versés de force dans la police. Ça, il y a un dysfonctionnement.
Maître Sonville, est-ce que vous pouvez nous faire une idée? Oui. Aujourd'hui, c'est vrai, après ces découpages, parce que les grands Katanga, l'ex-Katanga, aujourd'hui avec plusieurs provinces, comment fonctionne la cour d'appel notamment? Est-ce que cette cour est toujours saturée, inondée? Parce que bon, au niveau de Kalemi par exemple ou de Kolosi, il n'y a pas encore eu des cours d'appel ou des infrastructures pour accompagner cette décision. Comment ça se passe concrètement au niveau de Lubumbashi? Est-ce qu'on continue à traiter des dossiers?
Cette cour est saturée. Cette cour continue à traiter tous les dossiers de l'ex-province du Katanga. Si aujourd'hui vous vous rendez au niveau du palais de justice de Lubumbashi, vous verrez les conditions dans lesquelles travaillent les magistrats. C'est une salle qui est cloisonnée dans une petite salle, là où logent au moins 4 ou 5 magistrats. Il n'y a même plus de secrets d'instruction. C'est-à-dire même les justiciables sont au courant de ce qui se dit dans les dossiers, même les différents magistrats. De même, on ne comprend absolument rien. C'est-à-dire que ce démembrement-là est venu créer encore d'autres problèmes, puisque on n'a pas prévu les infrastructures dans lesquelles pouvaient loger ces services judiciaires. Aujourd'hui, au niveau du Katanga, du Haut-Katanga ici, nous avons des parquets secondaires. Si vous vous y rendez, c'est comme si on était au village. Je parle du parquet secondaire de Kamalondo. Si vous y allez, c'est une maison d'habitation, cloisonnée, très sale. Ça ne donne pas le goût de devenir magistrat. Et au-delà de ça, il y a le trafic d'influence. Vous pouvez vous rendre compte, M. J.R. Il y avait une marche qui était prévue par le rassemblement. Vous croyez, la 22e région militaire qui arrête 9 personnes. Est-ce que c'est dans les prérogatives de la 22e région militaire? Jusque-là, de ces 9 personnes, il y a un pasteur, Daniel, qui loge encore à la CASAPA pour avoir assisté à la réunion de rassemblement.
Voilà, merci beaucoup. Maître Sauville, c'est vrai, vous avez appuyé ce que venait de dire tout à l'heure Maître Riffin, mais que faut-il faire pour résoudre définitivement ces problèmes? Parce que c'est vrai,
d'une cour d'appel.
Oui.
Au-delà de ça, il faut donner l'argent, il faut budgétiser, il faut disponibiliser l'argent aux différentes institutions judiciaires. Puisqu'aujourd'hui, lorsque les magistrats vous parlent d'une descente, il faudrait que l'argent soit déboursé par les justiciables. Mmh. Ça ne se comprend pas. Il n'y a rien qui va ici. Et si aujourd'hui nous nous rendons au niveau de la prison de Kasapa, il y a beaucoup de détenus. La capacité d'accueil ne convient pas. Il y a des malades, il y a des prisonniers qui meurent du jour au jour.
Merci beaucoup, Maître Sauville.
Ce sont des problèmes qu'il faut résoudre.
Voilà, merci Sauville d'avoir proposé qu'il y ait une cour d'appel partout, en tout cas, dans les différentes nouvelles provinces, pour résoudre cette difficulté, parce que, bon, au niveau du Grand Katanga, si je comprends votre intervention, aujourd'hui, la cour d'appel, ou encore le parquet de grande instance, fonctionne vraiment avec beaucoup de difficultés, ailleurs, par exemple, au Lomami ou dans d'autres provinces, il n'y a pas eu encore définitivement l'installation de ces nouvelles cours d'appel, et c'est ce qui fait que celle de Lubumbashi est saturée. Merci beaucoup. Franck, vous êtes à Vienne, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour aux deux compatriotes qui se sont déjà exprimés, bonjour à tous les amis qui vont passer après.
Alors vous avez dit dans votre message que c'est vrai, le départ était déjà biaisé, ce qui était prévu, on est allé à presque 62 mois ou plus, et pourtant c'était prévu 36 mois pour, en fait, après le référendum, pour appliquer la décentralisation. Mais aujourd'hui, vous constatez comme tous les autres que dans les secteurs de la justice, on est vraiment loin d'entrer dans l'esprit et la lettre des législateurs de la loi portant fonctionnement, libre administration des provinces.
Oui, merci beaucoup, Gérard. Je partirai de cet adage latin qui dit « Qui bene amat bene castiga », qui aime bien, châtie bien. Quand on parle de la RDC, c'est notre patrie, c'est notre bien commun, c'est notre État. J'aimerais suivre ce que le maître Louko venait d'évoquer, le maître Sonville, qu'on doit d'abord s'éloigner de tout esprit de complaisance, parce qu'il s'agit ici de la patrie. Oui, quand on parle du fonctionnement d'un État moderne, qui se veut responsable et respectable, cela n'est effectif que si l'intégralité de ce pouvoir est en place. Et puis, un pouvoir qui n'a pas cette interaction interinstitutionnelle dans son intégralité aurait de la peine pour rendre effectif ses actions. Puis, on ne doit pas seulement voir le pouvoir d'un État au niveau de la capitale. Par rapport à notre pays, comme je l'ai déjà mentionné dans mon message, le dérapage, les déviations avaient déjà eu lieu dès le départ. D'après le texte de la Constitution, le démembrement ou la loi de la décentralisation devait entrer en vigueur 36 mois après. Au lieu de 36 mois, nous savons que c'était, je crois, après 7 ans ou 8 ans. Les raisons, on le sait, eux le savent, mais quand ils évoquent leur sophisme, ils trouvent quand même des arguments pour nous distraire. Puis il y avait encore un préalable très nécessaire, penser aux infrastructures immobilières, logistiques, et ainsi de suite. Cela n'a pas été effectif. Puis, d'un moment, on s'est réveillé un bon matin, on dit, nous allons appliquer cette loi. Et on l'a appliquée vraiment à la Congolaise, avec ce danger qu'on est parti du provisoire, oubliant même que chez nous, le provisoire devient le définitif. Les défis qui nous attendent sont là. Il y a le défi des finances. Comment on peut administrer toutes ces nouvelles provinces issues du démembrement sans finances? Il y a le défi de l'immobilier, des infrastructures, il y a la logistique. Il y a des magistrats, il y a des amis magistrats qu'on a affectés dans des nouvelles provinces issues du démembrement qui n'arrivent pas à répondre à cette affectation parce qu'ils sont butés au problème du logement, ils sont butés à une gamme de difficultés. Mais dans l'entretemps...
Franck, cette difficulté ne date pas d'aujourd'hui. Parce que, souvenez-vous même, avant l'application d'ailleurs de cette loi, en 2005 ou en 2006, et même bien avant, les problèmes se posaient. Vous allez à Kenge, par exemple, il y a un parquet sans magistrat, il y a des cours d'appel sans juge. Donc, vraiment, il y a autant de difficultés qu'on a vécues, même depuis l'époque ancienne, même dans un passé récent.
Oui, monsieur le journaliste, nous intervenons, moi personnellement j'interviens sur vos zones ici depuis 10 ans déjà, depuis 2007. Mais ce sont des histoires qu'on a toujours dénoncées. Ça ne peut pas nous enchanter parce que quand un papa d'abord a 3 enfants, qu'il ne sait pas bien nourrir, est-ce qu'il aura maintenant des facilités pour nourrir 10 enfants avec 10 dollars? S'il ne sait pas nourrir 3 enfants, il pourrait maintenant nourrir 10 enfants avec 10 dollars? Donc, les premiers défis, les premiers problèmes n'avaient pas été résolus convenablement. Alors, au lieu de penser d'abord à trouver des solutions par rapport aux premiers problèmes qui s'est posé et tels qui s'est posé, on a pensé faire la multiplication des provinces pour justement avoir aussi autant de gouverneurs qui répondraient seulement aux besoins et aux calculs des regroupements politiques pour se maintenir aux affaires. Moi, je crois que le démembrement n'a pas été fait pour rendre ses pouvoirs pour faciliter la proximité des dirigeants. Non, ce démembrement a été fait pour seulement faciliter les opportunités d'un regroupement politique qui aimerait rester le plus longtemps possible aux affaires. Et avec ça, les observateurs avertis que nous sommes, on nous demande de passer d'accepter une médiocrité pour une excellence.
Alors pour vous,
le cas du sophisme est déjà passé.
Oui,
mais là, c'est le réalisme.
Merci.
Nous analysons ce que nous voyons.
Oui.
On peut donner des notes que par rapport à ce qu'on voit. On ne donne pas des notes par rapport aux verbes, par rapport au discours.
Encore
faut-il que ce discours soit réel pour qu'on accepte, oui. Là, M. X a bien parlé parce que ce qu'il est en train de dire, nous le voyons être matérialisé. Mais tel qu'on est en train de faire, dans certaines provinces, il n'y a vraiment rien. Et comment vous allez dire que c'est une province qui n'a pas de bureaux, qui n'a pas de locaux, qui n'a pas de logements, tous ces gens-là qu'on va affecter?
Alors Franck, est-ce que vous partagez l'avis de Maître Rifin Louko qui parlait tout à l'heure de l'absence de la justice? Parce que là, finalement, on a tous constaté qu'il y a vraiment l'absence de la justice, surtout dans les nouvelles provinces, qui continuent à recourir au fait dans les instances judiciaires qui existaient dans les formats passé. Alors, quelles peuvent être pour vous aussi, quelles peuvent être des conséquences au fait de cette absence de la justice?
Mais les conséquences de cette absence de la justice, c'est maintenant laisser aller. On est en train de retomber dans un état de nature, c'est de la jungle, dans les homo homini lupus. Parce que quand, par exemple, le pouvoir d'un État n'est plus effectif sur l'ensemble du territoire, mais c'est chacun qui se fait passer pour un petit roi. Et la preuve est que ça bouillonne dans tous les coins du pays. Ça bouillonne dans le Kasaï, ça bouillonne dans le Katanga là-bas, ça bouillonne vers l'Est là-bas. Et on a un gouvernement qui n'arrive pas à maîtriser toutes ces instabilités là. C'est parce que l'État n'est plus convenablement représenté dans l'ensemble de l'État.
Voilà.
Et tout ça, c'est parce que on est complaisant dans la manière de faire, on est complaisant dans la manière de prendre certaines décisions engageant la nation et l'État dans son ensemble.
Merci beaucoup, Franck Deviane.
L'absence totale de l'État. Mais si on le dit, on nous traite des
voilà.
Mais comment vous allez nous demander
merci beaucoup,
de ne pas
Franck.
Dire ce que nous sommes en train de voir.
Merci beaucoup Franck, on va évoluer quand même avec d'autres qui nous ont rejoints à ce niveau du débat. Il y a Maître Gervais qui est à Calémy. Alors Gervais, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur J.R., bonjour.
Alors quel est le constat que vous avez fait? Est-ce que vous redoutez comme les autres qu'à l'absence de la justice, qu'on tombe facilement dans l'absence de l'autorité de l'État? Et en troisième palier, qu'est-ce que vous proposez comme solution?
Oui, après suivi les interventions des uns et autres par rapport à ce sujet, donc j'apprécie davantage l'intervention de Maître Rifin Loco. Je dirais que la justice actuellement n'est pas vraiment au top, n'est pas bien appliquée. Vous savez que dans la civilisation judiciaire jusque-là, nous demeurons par exemple au Katanga ici avec le démembrement. Nous dépendons tous de la cour d'appel de Lubumbashi. Vous savez que certains dossiers sont un peu pendants aux différents parquets de ces dites nouvelles provinces, par exemple la province de Olomami, la province du Tanganyika et les autres. C'est que la justice et même l'indépendance de la justice actuellement est à moitié redoutée. Vous savez, la justice n'est pas vraiment indépendante. Vous savez, il y a beaucoup de troubles, de soulèvements, tout ça. On s'attend que il y a certains dossiers jusque-là qui ne trouvent pas de solution par rapport à certaines difficultés que nous constatons, parce qu'il y a certains dossiers qui sont mis en appel, mais qui ne trouvent pas de solution par rapport, des fois, il y a des gens qui sont lésés. Mais pour quitter, par exemple, Calémy pour Lubumbashi, ils trouvent toujours des difficultés pour arriver à interjeter l'appel. Vous savez, il y a de sérieux problèmes. Jusque-là, la justice n'est pas bien appliquée dans les nouvelles provinces que nous avons connues actuellement là.
Merci beaucoup, Maître Gervais. 081-890-6315 pour votre intervention. En direct, nous revenons à vous, Maître Rufin Louco. Après avoir suivi les uns les autres, on se rend compte qu'aujourd'hui, la loi sur la libre administration des provinces souffre vraiment d'application et dans son ensemble, faute de budget et faute d'une planification sérieuse. À en croire les uns et les autres, on comprend qu'il y a cette absence. Donc tout le monde a rejoint carrément votre point de vue. L'absence de la justice crée l'absence de l'autorité, de l'État, le trafic d'influence et aussi beaucoup de cas d'impunité. Rufin Loco.
Oui, mais le roi Baudouin, dans son discours en 1960, nous avait déjà prévenu. Le roi Baudouin, il avait prévenu les Congolais, lorsqu'on nous donnait l'indépendance, ou on nous octroyait, ou on nous reconnaissait l'indépendance, que veillez à ne pas abandonner la justice. C'est la colonne vertébrale, de tout ce que nous avons bâti ici chez vous, au Congo belge. Donc, la justice, on nous avait prévenu. Et nous sommes là-dedans, pieds et mains liés, nous avons fait ce que nous a interdit. On a abandonné la justice. C'est le parapauvre. Lorsque vous allez au Parlement, le parapauvre, non, le dindon de la farce de toutes les institutions, c'est la justice. Regardez combien d'argent on affecte à la justice. La justice fait plus que et la police, et l'armée, et les politiques. La justice elle-même. Regardez combien de dossiers sont déposés devant tous les parquets, devant tous les policiers, les inspecteurs qui doivent traiter chaque jour les conflits entre les citoyens et même ou entre les citoyens et l'administration, entre les citoyens et la police. La justice traite un dossier important, énorme. Il doit donc être subventionné.
Oui, alors
que la justice,
oui,
tout le monde en a besoin partout. Il faut donc qu'il y ait une subvention suffisante. Et puis, cette histoire de ne pas évaluer les différents ministres respectifs de la justice, il faut les évaluer. Chaque fois qu'on veut évaluer les ministres, on neutralise les institutions qui sont chargés d'évaluer, sont neutralisés chaque fois qu'il y a une interpellation des ministres. Donc, c'est important qu'on évalue nos parleurs, nos ministres qui parlent beaucoup, mais dans l'action, on ne voit rien. Il faut qu'on évalue. C'est la démocratie. C'est vous et nous nous sommes bâtis. Moi, depuis les campus, on s'est bâti pour... Moutre ne nous a pas donné la liberté d'expression pour rien. On s'est bâti pour la liberté d'expression.
Oui, mais alors,
donc, pour rappeler aux gens qu'il y a des libertés publiques qui ont été acquises chèrement, et que donc nous devons continuer à nous battre pour que, notamment ce que nous avons chargé de nous gérer, soit évalué. Parce que l'évaluation nous permet de savoir
où il a commencé, où est-ce qu'il amène la République en ce qui concerne son ministère ou l'administration qu'il est en train de gérer.
Alors maintenant, si on peut quand même se permettre de vous poser la question, qu'en est-il de la réforme de la justice engagée depuis plus de 12 ans maintenant? En tout cas, si mes calculs sont très bons, plusieurs ministres de la justice se sont succédés à la tête de ces ministères. Ben voilà que la situation jusqu'à maintenant, comme vous l'avez dit, par exemple, nous avons au Nord Kivu encore un parquet qui fonctionne dans un réfectoire, ou encore à Lubumbashi, comme je viens de le dire,
une cour d'appel
qui fonctionne comme dans un réfectoire. Et à Lubumbashi, venait de dire Maître Sonville, où c'est dans une salle où on a confiné 5 ou 6 magistrats. Le secret de justice sont connus, même des justiciables. Donc voilà, autant de problèmes. Alors aujourd'hui, qu'en est-il de cette réforme engagée déjà depuis très longtemps?
Tu serais étonné que je te dise, dans un mot, elle est restée sur le papier. La réforme du papier. Point.
Et les états généraux. Les états généraux.
Le tribunal de grande instance de Ntuli a été incendié par les manifestations, n'est-ce pas, qui ont eu lieu les 19 ici passés. Jusqu'aujourd'hui, ce tribunal de grande instance est resté un hangar donc squelettique et personne n'en parle. Aucune autorité n'y est passée. Tribunal de grande instance de Ndjili, qui est le tribunal qui gère presque toute la partie Tchango, en termes de conflits. Il faut aller là-bas, combien de conflits sont gérés par ce tribunal? Abandon total. Je suis désolé de constater tout simplement que non, la réforme judiciaire est restée sur le papier. Regarde, la réforme qui a commencé depuis les années 2007, que nous avions initiée à l'époque, aujourd'hui la réforme pénitentiaire. Jusqu'aujourd'hui, les évasions, les morts dans la prison continuent. Parce que rien n'a bougé après. Rien n'a bougé après. L'évaluation annuelle, semestrielle, trimestrielle est fondamentale. Chez nous, on
mais l'année passée,
ceux qui ont échoué, on le prend. On légiste encore à des postes supérieurs. Ça ne va pas avancer. Nous ne pouvons pas gagner la Coupe du Monde si nous n'avons pas Cristiano, nous n'avons pas Messi, si nous n'avons pas les meilleurs parmi nous. Ce sont les meilleurs qu'il faut avancer pour le pays du monde. Si les médiocres doivent continuer à me gérer, et nous ne les évaluons pas parce qu'ils se bornent d'un certain nombre de choses autour d'eux pour qu'aucun contrôle ne les atteigne, hélas, nous allons continuer. La justice, je vous parle de la réforme que j'ai constatée, restée.
Alors, nous vous gardons encore en ligne, le temps de prendre Maître Toussaint. Maître Toussaint qui nous a rejoint à ce niveau du débat, il est député national. Alors, honorable Toussaint, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, très cher frère.
Alors, d'entrée des jeux, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les provinces fonctionnent réellement dans l'esprit et la lettre de la loi portant libre administration des provinces? Donc, est-ce que les provinces, le fonctionnement de la justice reste dans l'esprit et la lettre du législateur congolais?
Je vous remercie pour une question aussi importante. L'esprit du législateur, en votant les lois sur la libre administration des provinces, c'était une très très bonne chose pour le Congo, dans l'esprit de l'émergence et de rapprocher les administrés à l'administration. Mais à ce jour, nous sommes loin de vivre la pensée du législateur et même les vœux politiques tels que voulaient les constituants congolais. Aujourd'hui, les gouverneurs des provinces, par-ci, par-là, vous apprenez des motions de censure à gauche, la mégestion, la marche de l'administration provinciale est au-delà de l'esprit de la loi. Mmh. Et donc, vous allez vous rendre compte que les gouverneurs des provinces, là où ils sont, la loi ne leur dit rien. Si au niveau de l'administration centrale, il se pose un problème de l'application de la loi. Encore que cet esprit de la décentralisation, c'est un élément technique, que cela soit encore maîtrisé par ces gouverneurs qui, la plupart, sont des clients. Les clients des partis politiques, c'est le clientélisme, c'est le fanfaronnisme, ce sont les grands danseurs qui sont aujourd'hui devenus des gouverneurs. Et dans cet esprit-là, comment voulez-vous comprendre celui qui fait l'animation d'un parti devenu gouverneur, qu'est-ce qu'il peut produire? À la longueur de la journée, il ne faut que chater les noms du chef. Les noms du chef. On les attend à gérer l'administration. Et même dans le domaine de la justice, le problème chez nous au Congo, ce n'est pas le codex. Le meilleur texte, parmi les meilleurs textes du monde, nous les avons. mais l'application, c'est-à-dire que la culture de l'application des textes n'est pas dans notre ADN congolais. Nous sommes étrangers dans le respect des textes, le respect de nos propres lois. La justice telle qu'elle est en train de fonctionner dans les différentes provinces, c'est le gouverneur qui est la loi. La parole du gouverneur vaut loi partout où ils sont, qu'ils soient dans les anciennes provinces comme dans les nouvelles provinces aujourd'hui. C'est la loi. Outre le gouverneur, il n'y a rien. Et vous allez vous rendre compte que la pensée du législateur quant à l'administration des provinces, en ce qui concerne la décentralisation, il n'y a pas moyen de progresser. Sinon, on devrait en principe, une année, deux ans de l'exercice, progresser, avancer, réaliser ce que l'on pensait l'esprit des constituants par rapport à cette nouvelle loi.
Alors, vous êtes législateur. Oui, maître Toussaint, vous êtes législateur. Qu'avez-vous fait pour, au fait, évaluer, peut-être une année plus tard, ce que vous aviez, au fait, imprimé comme pensée et qui n'a pas été exécuté par la suite par les acteurs politiques?
Ce que nous avons fait, personnellement, comme intellectuel congolais et législateur, c'est une responsabilité en ce qui me concerne. Lors d'une des questions posées à l'Assemblée nationale, j'avais demandé au président de notre chambre, l'honorable président Minaku, d'introduire ce que l'on appelle ailleurs la fonction évaluative, d'évaluer les lois que nous votons et leur incidence sur la qualité de vie des Congolais. Ça, c'est un élément très, très important. Sinon, nous allons légiférer pour le plaisir de légiférer, mais ces lois-là ne vont pas être appliquées. Et les Congolais risquent de croire que les députés ne font rien. Alors qu'ayant la mission de légiférer, dans l'intérêt d'améliorer la qualité de vie des Congolais, mais aussi de contrôler ceux qui sont appelés à exécuter. Cette fonction-là, à 80% de légiférer, 20% de contrôle, si nous marions ces deux fonctions, nous serons très efficaces et nous aurons une incidence réelle sur la vie de nos populations. Malheureusement, entre la parole et la pratique, il y a toujours un écart. Mais nous nous battons de sorte que, finalement, les lois que nous votons ne soient pas un vœu pieux, mais soient des réalités qui doivent avoir une incidence réelle sur la vie des Congolais. Alors, donc, très chers frères, la justice, c'est encore la justice. Elle n'a pas été parmi les cinq chantiers, c'est le moindre des cadets que le régime actuel a. La justice.
Alors, mettez tout ça, s'il vous plaît. Mettez tout ça. Parce qu'on sait qu'il y a le développement de la République démocratique du Congo passe d'après certaines études par la décentralisation. Et aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a une forte absence de la justice à travers ces provinces-là. Est-ce que ne craignez-vous pas ou ne redoutez-vous pas que nous soyons vraiment loin du développement dès lors qu'on ne trouvera pas la solution rapidement au niveau du secteur judiciaire?
Mon très cher frère, c'est une question très fondamentale qui me préoccupe au plus haut point. Si l'homme le plus important dans un régime démocratique, c'est le juge. Si vous voyez la condition des juges congolais aujourd'hui, vous allez vous demander si le juge congolais a une place dans un régime démocratique. La réponse est non. Et si le juge lui-même n'a pas une place, quelle est la suite? L'exécutif ne voudra jamais que la justice fonctionne indépendamment. Parmi ceux qui sont en train de régner dans les médiations, ce sont ceux qui nous gouvernent. Ailleurs, il y a des motions contre les gouverneurs, c'est la médiation. Et à gauche et à droite, c'est la même chose. Et donc, vous allez vous rendre compte que les problèmes de la justice, c'est un problème important. Mais pourquoi chaque régime, surtout dans l'état des États africains, pourquoi on ne veut pas que la justice évolue? Parce que ceux qui règnent savent que laisser la main libre à la justice, c'est également une épée démocratique sur la tête. Voilà pourquoi la justice est le moindre des soucis. Quand vous voyez les budgets autour de la justice, quand vous voyez les conditions de vie des magistrats, alors vous allez à conclure que le développement n'est pas au rendez-vous. C'est clair.
Alors, tout ça, nous vous gardons en ligne pour quelques minutes également. On va prendre Alain qui est en Bandaka, qui nous a rejoint également à ce niveau du débat. Alain, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, J.E. Bonjour à notre invité, maître Lucien Loco. Bonjour aux milliers d'auditeurs de la radio Kapi qui nous écoutent à ce moment.
Alors, vous avez suivi les uns les autres qui redoutent que l'absence de la justice, que règne aussi l'absence de l'autorité de l'État. Est-ce, quel est le constat que vous avez fait? Parce que les grands équateurs.
J'ai totalement à mes prédécesseurs. Et je vais prendre les cas pratiques dans l'Équateur grand format. La proximité n'est que froide. Les justiciables ne sentent rien du tout des effets de leur rapprochement à la justice. Prenons le cas des tribunaux de paix et parquets secondaires installés dans le territoire et dans certaines villes où les magistrats, jusqu'à présent, ne rejoignent pas leur poste de travail. Par voie de conséquence, les audiences ne se tiennent pas. Hier, certains magistrats disent que les conditions de remplir loyalement leurs fonctions ne sont pas réunies. Des bâtiments, moyens de mobilité, l'enclavement de certaines zones rurales, tout ceci ne permet pas d'avoir une justice rapprochée JR. Le gouvernement a tout intérêt de pouvoir mettre ces magistrats dans les conditions normales, afin de pouvoir faire leur travail comme il se doit JR. Dans le parquet, prenons le cas chez moi, dans la nouvelle province de la Tchouapa, le territoire d'Ikela et le territoire de Befale. Il y a déjà des tribunaux de paix qui sont installés, mais les magistrats ne sont pas là. Oh, les magistrats qui sont censés animer les institutions judiciaires. D'un côté, il y a les magistrats, de l'autre côté, il y a les justiciables. Comme les magistrats ne sont pas là, maintenant, les justiciables vont amener leur dossier où pour qu'il soit.
Allez, on nous a laissé attendre que, par exemple, pour le cas de la Tchouapa, il y a des auxiliaires de la justice qui font également la loi là-bas.
Ouais, les auxiliaires de la justice sont là.
Les polices, les OPJ.
Est-ce qu'un avocat ne peut pas siéger?
Non, je parle plutôt d'un OPJ. Je parle plutôt d'un OPJ. Bon, voilà, merci beaucoup Alain d'avoir appelé. On revient à vous, à Ruffin Louco. Vous êtes avec nous. Maître Toussaint, Honorable Toussaint évoquait la fonction évaluative des lois. Vous venez de le dire exactement, peut-être pas de même terme. Donc c'est comme pour dire que ce sera ça comme solution idéale.
Bon, la première chose pour laquelle je m'oppose naturellement, c'est la neutralisation des institutions d'évaluation. L'inspection générale des finances, le Parlement, les différents parlements provinciaux, leur neutralisation bloque la démocratie. Point. Leur neutralisation bloque la démocratie. Et notre pays s'appelle la République démocratique du Congo. Nous battons chaque jour pour les libertés publiques et pour la démocratie, pour que les meilleurs parmi nous puissent nous représenter à tous les niveaux de la justice. Et puis, j'avais déjà demandé dans une émission, pourquoi les procureurs généraux ne sont pas évalués, les procureurs généraux des provinces? Pour savoir, il a fait 5 à 3 à 4 à 10 ans, combien déjà de sa compétence a-t-il arrêté? Comment a-t-il rendu la justice? Parce que le procureur général est notamment chargé, par exemple, pour le détournement, de faire arrêter ces gens-là, de les faire condamner pour la restitution. Tous ceux qui ont détourné sont restitués à l'État. Combien de vous voyez le rapport du Conseil spécial du chef de l'État en matière de bonne gouvernance. Nous perdons. Il a parlé de 15 milliards par an dans la fraude et le détournement. 15 milliards, notre budget a été rarement, difficilement 5 milliards. Mais dans la fraude. Donc si les parquets généraux faisaient leur travail, ne fût-ce que les quelques parquets qui sont là dans les 11, on aurait déjà. Donc la justice est un sali pour la République. Elle n'est pas là pour les dénots de la farce. Elle n'est pas là pour les décors. Non, la justice est une branche fondamentale pour la relance de la République. Et là, regardez par exemple, dernièrement, on a condamné certains politiciens français et certaines entreprises à rétrocéder à la République ou à l'État, par exemple en Italie. C'est autant de milliards de dollars. Ils ont déclaré leurs revenus dans un autre pays, alors que ces revenus-là avaient été générés en Italie. Et c'est la justice qui a prononcé ça, autant de milliards, et l'entreprise va payer. C'est Facebook qui a été condamné. Donc voilà, la justice est une branche fondamentale pour le développement. Nous, si nous redressons la justice à elle seule, elle peut faire comme la Zécamine, plus de 50% du budget national. La justice peut faire ça. Qui pense, qui le voit, qui a une vision par rapport à ça? La corruption a tellement anéanti beaucoup de bonne volonté que nous voyons la justice demeurer les données de la farce. C'est pourquoi
la réforme qu'on a projetée n'a toujours pas commencé. Personne n'en parle, personne ne demande. Donc il faut qu'on sorte de cette torpeur-là. Ceux qui sont fatigués doivent se reposer. Ceux qui ne peuvent plus rien faire pour la République, on doit les mettre de côté pour que ceux qui ont la capacité de faire avancer les choses puissent gérer les choses. C'est important. La vision, les résultats. La vision, les résultats. Pas la parole et voilà. Les règnes. La parole, les règnes. La alors, vision, les résultats.
Voilà. Merci beaucoup, Ruffin. On revient à mettre tout ça pour recueillir aussi son point de vue par rapport à la réforme de la justice actuellement, qui pourrait être quand même une bouffée d'oxygène, hein, dans cette démarche de la décentralisation, mais on a l'impression que vraiment c'est loin d'être le cas. Maître Toussaint, vous êtes avec nous.
Oui, je suis là, très cher frère.
Alors, je parlais de la réforme de la justice engagée depuis très longtemps aujourd'hui, et ça piétine un peu, ça marche à pas des tâtons.
Bon, généralement, je voudrais d'abord saluer mon très cher confrère et ami personnel qui est votre invité, je le salue, et ses pertinentes interventions. Et je voudrais ici dire que très souvent, quand on parle de réformes judiciaires, on sous-entend les réformes en termes de textes. Non, le problème, ce n'est pas seulement les textes. Les textes, en termes de réformes, a un rôle, mais à un certain niveau. Si la plupart de nos réformes, nous les proposons comme si nous étions un État déjà évolué, développé. Mais ce qui n'est pas le cas. Les réformes, il faut prendre en compte les conditions des magistrats, la réalité du terrain et les textes applicables, mais aussi dans un État qui se veut État de droit, un État démocratique comme le nôtre ici. La justice, comme l'a dit l'intervenant de tout à l'heure, a un rôle extrêmement important. Mon très cher frère, comment voulez-vous comprendre qu'aujourd'hui on crie à gauche et à droite mais gestion? Et ceux qui sont au terme de ces gestions, la façon de l'évaluer, c'est de leur promettre les fonctions de vice-premier ministre et ministre à gauche et à droite. Qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire tout simplement que le régime actuel de Kinshasa, c'est le règne de l'impunité totale. Et même ce que la Constitution dit, nous sommes tous égaux devant la loi. Mais c'est faux chez nous. Cela reste un vœu pieux. On n'est pas égal. Aujourd'hui, un Congolais de Massina face à un jeune frère d'un ministre ou d'un vice-premier ministre ou de premier ministre n'est pas égal. Le traitement d'abord devant les magistrats, le traitement d'abord au niveau des services carcéraux, ce traitement-là se diffère parce que tel est sorti de telle strate sociale, on le traite comme tel. Mais vous comprendrez que aujourd'hui, aussi longtemps que nos textes parmi les meilleurs textes d'Afrique, qui ne seront jamais appliqués, notre pays ne décollera pas. L'on peut beau crier, chanter à la longueur de la journée, exalter comme l'on veut, jamais nous n'allons décoller. Alors, la solution demeure dans le respect de nos textes. Merci. La solution demeure, que vous soyez ministre, vous devez respecter la loi. Voyez seulement le comportement de nos ministres, lorsqu'ils roulent. Voyez, vous avez des généraux qui n'ont pas de plaque d'immatriculation. Vous avez des services de l'État qui n'ont pas de plaque. Ils roulent comme si ce qui était devant lui ne représente rien. Allez dans des petits exemples concrets de la vie pratique.
Voilà, merci beaucoup. Pour que vous vous rendiez compte,
finalement, notre justice, c'est un décor. En réalité, son rôle constitutionnel est bloqué quelque part. Profit de l'exécutif.
Merci beaucoup, honorable Toussaint, d'avoir appelé et aussi d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. À très bientôt. Alors, on prend Maître Gaston qui nous a rejoint également dans ce niveau de débat. Justice comme décor, avec plusieurs provinces. Maintenant, on est parti des 11 à 26. Et, comme pour dire, ça devient encore davantage un décor. Voilà. Est-ce que vous partagez cet avis, Maître Gaston?
Oui, je vous remercie d'abord pour la parole que vous me donnez. Je vous salue aussi, hier.
Oui, si vous pouvez redynamiser un peu votre voix,
voilà, Maître Gaston. Je vous remercie pour la parole et puis je vous salue aussi. Maintenant, vous m'écoutez bien, je pense. Oui. Allô?
Oui, allez-y.
D'accord. Et puis, j'allais d'abord dire que je ne suis pas de critiquer.
Ben alors là, on vous attend à peine, hein, Maître Gaston. Voilà, on revient à vous, Maître Ruffin. Louko, après avoir suivi les uns les autres, alors quel est votre avis?
Bon, c'est-à-dire, c'est, il faut d'abord encourager l'action du chef de l'État, n'est-ce pas, de, le chef de l'État a déjà révoqué plus de 3-4 fois des magistrats pour que ça bouge. Et cette action-là, parce que la corruption dans la justice est devenue quelque chose de normal. Il faut le combattre chaque jour. La population est misérable, n'a rien face à une justice qui demande de l'argent. La population n'y a pas sa place. Et donc, la seule chef de l'État d'avoir sanctionné comme ça, hélas, le drame maintenant après ces sanctions-là, c'est que lorsque on a révoqué, ce que l'on a pris à la place sont devenus plus voraces que ceux qui sont partis. Il faut donc qu'on renforce le mesure, parce que nous avons même l'impression que certains de nos magistrats, même si on leur donne 10 000 dollars par mois, ils ne vont pas cesser de courir derrière 10 dollars, 20 dollars. La justice est le nerf du développement de notre pays. Nous avons été parmi les pays pilotes de l'Afrique. Le Congo belge était parmi les pays pilotes. Il y avait des cas qui se commettaient au Rwanda, au Burundi, à l'époque au Rwanda, au Burundi, à Brazzaville, au Kenya, et qui étaient jugés au Congo comme une justice de référence. Nous avons eu les magistrats de la plus grande qualité en Afrique. Nous avons permis tout ça par l'abandon de notre justice en termes de subventions et surtout le fléau de la corruption. Il faut donc combattre ça. Et cette corruption est d'abord mentale. Les gens ne résistent plus à l'argent dans ces pays. Cette façon-là d'utiliser l'argent pour toute fin doit être combattue de la manière la plus vigoureuse pour qu'on revienne aux bonnes valeurs. Parce que la justice, avec l'argent, devient le marchandage, devient les affaires, devient, comme on l'appelait à l'époque du Moyen-Âge, ça veut dire le lucre total, comme on dit, au Moyen-Âge, on vendait des têtes, déjà, on vendait des personnes uniquement pour l'argent. Donc la personne était dans le commerce. Aujourd'hui, ça devient la même chose. On rend la justice au nom du peuple congolais, mais pour son propre compte en tant que magistrat. Et même de certaines langues disaient que les avocats ne gagnent plus de procès, ce sont les juges qui prononcent et gagnent. Les avocats ne gagnent plus de procès, donc les plaideurs ne gagnent plus de procès, ce sont les juges qui prononcent et gagnent. Tout ça, ce sont des réalités qui sont dans notre justice, qui doivent être combattues. La justice doit être déployée sur l'étendue du territoire national parce que c'est celle la justice qui donne la présence de l'autorité de l'État, parce que la justice est dernière de sanctionner. L'administration ne sanctionne pas. C'est la branche de l'État qui sanctionne pour les violations de la loi et qui représente donc l'autorité de l'État, c'est la justice. Là où il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'autorité de l'État. Mais comme on a ça pour, si la justice militaire et civile fonctionnait là-bas, on aurait déjà arrêté les commanditaires. On n'a arrêté personne jusqu'à aujourd'hui. À Bukavu, à Goma, à Beni, Butembo, si on avait arrêté et neutralisé par la justice les commanditaires, on aurait eu déjà qu'un des causes de ces choses-là. Parce que la justice fonctionne difficilement dans ces coins, conséquences, ces phénomènes, perdus, et nous en sommes là à crier. J'en profite pour saluer le grand honorable Toussé Alonga, et nous le félicitons pour le travail qu'il fait. Donc voilà un peu, en conclusion, le mot que je pourrais à la fin de cette émission.
Alors donc, sans la justice, on ne peut pas, comme disent les uns les autres, ou encore témoignent certaines études, que le développement de la RDC passe par la décentralisation et le fait que la justice soit quand même les points importants de cette émission. Il pourrait que ça peut être quand même difficile hein, d'atteindre quand même ce développement. Est-ce que vous pensez vous partager cet avis, comme le disait Toussé Alonga tout à l'heure?
Oui, je partage ce point de vue. Regarde, par exemple, on a parlé de détournement de l'argent au Katanga là-bas, d'Alex Katanga. Mais quelle est l'action que la justice a faite? Donc on neutralise. La justice, si elle avait déjà actionné quelque chose, ces messieurs-là, si les faits sont établis, auraient déjà dit rembourser ces sommes énormes. Donc la justice, lorsque nous en parlons, l'amener au cœur, nous parlons d'une manière pathétique parce que nous savons combien la justice est le salut de la République. J'avais tiré ça d'un témoignage du président du Conseil judiciaire, M. Tsingaouji, au Parlement, de récemment ici, lorsqu'il disait que lorsque j'étais président du Conseil judiciaire, on aurait dit poser les bases d'une justice solide. Parce que maintenant, aujourd'hui, je constate que lorsqu'on m'arrache ma petite ferme à Kikwit là-bas, en province, seule la justice peut parler pour moi. Donc, cette justice-là concerne tout le monde. Et lorsque nous parlons de sa décentralisation, c'est fondamental. Parce que, par exemple, en matière pénale, celui qui a été condamné à Kalemie pour faire appel, le dossier doit aller à Lubumbashi. Et de Kalemie à Lubumbashi, si ma mémoire est bonne, à pied.
c'est plus de 2000 kilomètres. Le dossier doit aller dans un sachet et contre les intempéries. On fait comment? La distance est énorme pour quitter Arouari ou Aréalé à Lumbashi avec un dossier pénal, un appel. C'est, ou bien les juges quittent Lumbashi pour aller à Kalemi, ou à Moba, ou à Fioura et Consort, ou c'est le dossier qui est envoyé.
Voilà,
qui
merci.
Voit que ça peut faire des pertes.
Merci
il
beaucoup,
faut que le moyen soit donné pour que la décentralisation soit d'abord judiciaire.
Merci
non,
beaucoup, Maître Rifa.
Les politiciens pensent toujours qu'on est peut décentraliser, qu'il y ait les politiques.
Merci beaucoup, Maître Rifa. Nous rappelons que vous êtes avocat, d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt. Merci également à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission. On prend rendez-vous avec vous lundi. Il ne reste qu'à vous souhaiter un agréable week-end à vous tous et à vous toutes. Et nous prenons donc rendez-vous, comme je l'ai dit, en début de semaine prochaine pour un autre numéro.